France Culture. Julie Paco.
Bonsoir à tous. Ils appellent à leur libération d'urgence. Les proches de Cécile Kohler et de Jacques Paris, emprisonnés en Iran, ont réuni leur soutien à Paris cet après-midi et appellent à privilégier le droit international plutôt que les menaces à l'encontre de Téhéran pour permettre leur libération. Face à la menace de l'augmentation des droits de douane américains, la discussion n'est pas terminée, veut croire le ministre Laurent Saint-Martin. À quelques jours de la date butoir fixée par Donald Trump, le ministre délégué au commerce extérieur plaide pour qu'un accord 0 pour 0 soit proposé par les Européens à Washington. Une milice opposée au Hamas dans la bande de Gaza serait soutenue et armée par Israël. C'est ce qu'affirme son chef, Yasser Abu Shabab. Une milice accusée de piller l'aide humanitaire dans l'enclave. Et puis Castel Gandolfo et ses 10 000 habitants s'apprêtent à accueillir le pape en Italie. Léon XIV renoue en effet avec une tradition boudée par son prédécesseur. Rassemblement à Paris cet après-midi en soutien à Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran depuis plus de 3 ans. Les deux ressortissants français ont été inculpés cette semaine d'espionnage pour le Mossad, le service de renseignement extérieur israélien. Ils encourent la peine de mort. Alors si Emmanuel Macron dénonce une provocation à l'égard de la France et menace de mesures de rétorsion à l'égard de l'Iran, le comité de soutien de Cécile Kohler et de Jacques Paris, rassemblé à Place du Panthéon à Paris, appelle à tout mettre en œuvre pour permettre leur libération la plus rapide. Adrien Toufollet.
Le clapotis de la pluie sur la place du Panthéon rythme l'appel lancé par la fille de Jacques Paris.
Nous le disons en farsi, nous le disons en français et dans toutes les langues, à ceux qui nous écoutent et qui ont le pouvoir d'agir. Sortez-les de là immédiatement.
Après 1156 jours de détention, Anne-Laure Paris a reçu avec un mélange de satisfaction et de crainte le compte-rendu de la visite consulaire d'un diplomate français mardi dernier auprès d'eux.
On a appris de la visite consulaire, bon, certes qu'ils étaient indemnes, mais extrêmement choqués, terrorisés par le fait que les bombardements puissent reprendre. On sait qu'ils ne dorment plus, que les conditions de détention dans lesquelles ils sont encore extrêmement dégradées.
Le couple a même depuis été séparé après le bombardement de leur prison d'Evin par Israël. Elle déplore la sœur de Cécile Kohler, Noémie.
Ils ont tous les deux été évacués de la prison d'Evin avec les autres prisonniers après les bombardements, puisque la prison d'Evin est complètement détruite. Donc on sait que Cécile a d'abord été transférée à Karchak. Au bout de 24 heures, on est venu la chercher, on lui a bandé les yeux et on l'a amenée dans un lieu de détention inconnu. Jacques a été transféré immédiatement dans un lieu de détention inconnu. Et aujourd'hui, les autorités iraniennes refusent toujours de communiquer la localisation de ces lieux de détention.
Alors tous demandent aujourd'hui que le régime iranien donnent leur localisation, leur permettent de communiquer normalement avec leurs proches. Message également aux autorités françaises. Après la menace de mesures de rétorsion lancée jeudi par Emmanuel Macron, sans en préciser la nature, Shirin Ardakani est l'avocate de la famille Kohler.
Ce que nous disons aujourd'hui aux autorités françaises est faites-les revenir rapidement, inconditionnellement et ne sacrifiez aucun principe parce que là encore, face à une opération d'extorsion criminelle, eh bien on ne peut pas répondre par la loi du plus fort et le droit est un outil. Je crois qu'aujourd'hui, une étape est franchie et qui justifie des mesures urgentes de rapatriement de nos ressortissants. Et nous demandons à la France de mobiliser cet outil. Il n'est jamais vain d'avoir recours au droit face à la loi de la prédation et du plus fort.
L'Élysée a déjà fait savoir que le dossier sera évoqué prochainement avec le président iranien Massoud Pezeshkian.
Un reportage d'Adrien Toffolet. Bercy prépare sa riposte à l'augmentation des droits de douane imposés par Donald Trump. À quelques jours de la date butoir du 9 juillet, fixée initialement par le président américain pour la conclusion d'un accord entre les États-Unis et ses partenaires commerciaux, faute d'accord, eh bien le ministère américain du Trésor confirme ce soir que l'augmentation des droits de douane pouvant atteindre 50% entrera en vigueur le 1er août prochain. L'Europe doit donc se défendre, insiste le ministre délégué au commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, invité de France Inter.
C'est quoi mon objectif comme ministre du commerce extérieur ? C'est que nos entreprises ne soient pas pénalisées. C'est que nos entreprises puissent continuer à exporter sur le marché américain. C'est continuer inlassablement à expliquer que les États-Unis ont plus à perdre qu'à gagner avec ces droits de douane. Ce n'est pas fini la discussion. Il y a encore un chemin de conviction là-dessus à mener et en fonction du résultat de la négociation. Nous aurons avec mes collègues du commerce européen un conseil le 14 juillet sur lequel nous verrons la position à adopter. Y aura-t-il des mesures de riposte ou non ? Ça ne peut se faire qu'en fonction du résultat de la négociation. Je dis nous avons un arsenal dissuasif, parce que nous pouvons effectivement l'actionner. Le faut-il ? Je ne le crois pas. Pour une raison simple, c'est que ça créerait une forme d'escalade. qui serait encore une fois négatif pour nos propres industries. Pardon d'être très concentré sur nos propres entreprises, hein, mais le président américain, lui, ne réfléchit que America First. Permettez-moi d'avoir aussi un réflexe de protection de nos entreprises et de nos industries européennes et françaises. Qu'est-ce que vous faites si vous pénalisez, par exemple, le bourbon américain en riposte, comme ça avait été fait lors du premier mandat de Donald Trump ? Eh bien, vous exposez nos propres vignerons, nos propres entreprises de vins et spiritueux à avoir encore plus de droits de douane en réponse. Ça s'appelle l'escalade de la guerre commerciale. Il faut l'éviter.
Laurent Saint-Martin qui confirme également que le gouvernement pourrait opter pour une année blanche. C'est une piste sur la table, dit-il. Alors que le gouvernement souhaite faire 40 milliards d'euros d'économies pour le budget 2026. Mais ce possible gel des dépenses de l'État suscite une levée de boucliers à gauche comme à droite. Éric Coquerel, député LFI et président de la commission des finances, déplore une très mauvaise solution quand le vice-président délégué des Républicains, François-Xavier Bellamy, y voit l'inverse de la bonne stratégie, appelant à s'attaquer de très près à la dépense sociale. Les inondations au Texas ont fait au moins 59 morts, dont une quinzaine d'enfants. Dernier bilan des autorités locales, deux jours après les pluies diluviennes ayant entraîné une crue soudaine du fleuve Guadalupe près de San Antonio. Une trentaine d'enfants qui participaient à un camp d'été sur les rives du fleuve sont toujours portés disparus. Bonsoir Loïc Loury.
Bonsoir.
Correspondant aux États-Unis pour France Culture, un demi-millier de secouristes sont toujours déployés au Texas pour tenter de retrouver les survivants, mais la polémique déjà enfle autour des prévisions météorologiques et les alertes qui ont tardé à arriver.
Oui, comment une telle catastrophe a-t-elle pu se produire, d'autant plus que la région est réputée exposée aux inondations? Cette question, on l'entend beaucoup depuis hier. On sait notamment que les deux antennes météo régionales manquaient de personnel, et en particulier de cadres dans le contexte des coupes budgétaires de Donald Trump, climato-sceptiques notoires. Les services concernés ont-ils mal anticipé l'ampleur de ces inondations? Ils ont en tout cas émis des alertes, alors peut-être n'étaient-elles pas assez pressantes, peut-être pas assez relayées, peut-être n'ont-elles pas été entendues. Certains affirment aussi que c'est surtout le scénario du pire qui s'est réalisé avec cette crue historique au milieu de la nuit qui a pris absolument tout le monde de court.
Et dans la région de San Antonio, les secours poursuivent activement leur recherche ce soir?
Oui, des équipes aériennes, terrestres, aquatiques fouillent ce matin les eaux du Guadalupe. 500 secouristes, 14 hélicoptères déployés, la garde nationale du Texas, les gardes-côtes ont envoyé des renforts et ce matin, des volontaires préparaient aussi des chevaux afin d'accéder à des zones trop dures à couvrir pour les véhicules. Les autorités locales répètent que les recherches se poursuivront tant que tout le monde n'aura pas été retrouvé. 850 personnes ont été secourues environ, certaines perchées dans des arbres, mais le fait est que 48 heures après la catastrophe, la situation commence à devenir désespérée, d'autant plus que la météo n'est pas favorable aux opérations, avec encore 10 à 25 cm de pluie attendue aujourd'hui par endroits sur des sols déjà gorgés d'eau.
Loïc Loury en direct des États-Unis pour France Culture, où Benjamin Netanyahou doit arriver dans quelques heures pour y rencontrer Donald Trump demain. Le président américain espère conclure cette semaine un accord de trêve et la libération des otages dans la bande de Gaza. Un nouveau cycle de négociations indirectes entre le Hamas et Israël a débuté à Doha, au Qatar aujourd'hui, où s'est rendue une délégation israélienne. Vendredi, le Hamas s'est dit prêt à engager immédiatement des négociations sur la proposition de trêve parrainée par les États-Unis. Mais le Premier ministre israélien a de son côté jugé inacceptables les modalités proposées par le Hamas. Dans le même temps, l'armée israélienne a poursuivi ses opérations dans l'enclave. Au moins 26 Palestiniens ont été tués aujourd'hui dans de nouvelles frappes d'après la défense civile de Gaza. L'armée israélienne dit avoir frappé de son côté 130 cibles terroristes au cours de la journée écoulée et dans l'enclave palestinienne. Une milice opposée au Hamas reconnaît aujourd'hui coopérer avec l'armée israélienne. Accusée de piller les camions d'aide humanitaire, ce groupe armé mène des actions dans le sud de l'enclave avec le soutien d'Israël. C'est ce que confirme son chef Yasser Abou Shebab aujourd'hui. Les explications depuis Jérusalem de Michel Paul, correspondant de RFI.
Dans une interview diffusée par Makan, la radio publique israélienne en langue arabe, Yasser Abou Shebab présente son organisation comme composée de jeunes Palestiniens de la bande de Gaza qui ont goûté à l'amertume et à l'injustice dans l'enclave palestinienne. Originaire d'une famille bédouine influente du sud de Gaza, Abou Shebab affirme commander des centaines d'hommes armés. Yasser Abu Shabab affirme également pouvoir se déplacer librement dans les zones sous contrôle de l'armée israélienne, avec laquelle il dit communiquer avant les opérations de son groupe armé.
Tant que l'objectif est l'aide et le soutien, nous informons simplement Tsahal de nos missions. Nous réalisons ces missions nous-mêmes.
Il y a des choses dont nous ne pouvons pas parler publiquement, dit-il encore. Abu Shabab indique que l'armée israélienne a fourni à son groupe des fusils d'assaut Kalachnikov. Certains ont été saisis au Hamas et au djihad islamique durant les affrontements. Il revendique également une certaine coordination au niveau administratif avec l'autorité palestinienne à Ramallah. Et il ne cache pas son ambition. Les forces populaires, c'est le nom de sa milice, seront les héritiers à Gaza après l'écrasement et la défaite du Hamas, proclame-t-il. La milice d'Abu Shabab a été accusée par le Hamas de piller l'aide humanitaire et de la stocker dans des entrepôts sous protection israélienne. Considéré comme un traître par les factions de la résistance palestinienne, un communiqué publié ce matin par le Hamas et le djihad islamique indique qu'il a été condamné à mort.
Michel Paul, le ministère russe de la Défense revendique la prise de deux nouvelles localités dans l'est de l'Ukraine aujourd'hui. Un village dans la région de Donetsk et un autre dans la région de Kharkiv. Ces trois derniers mois, les forces russes ont accéléré leur avancée sur le front et dans les airs. La nuit dernière, près de 157 drones et 4 missiles antiaériens ont été lancés par la Russie, affirment les forces armées ukrainiennes. Plus d'une centaine ont été interceptées, mais au moins 4 personnes sont mortes dans un bombardement dans la région de Donetsk. Vous écoutez France Culture, il est 18h11 et au Vatican, le pape prend aussi quelques vacances. Léon XIV renoue avec une tradition abandonnée par François, passer une partie de la belle saison dans la résidence d'été des papes à Castel Gandolfo, à une vingtaine de kilomètres de Rome. Il arrive cet après-midi et pour deux semaines, la commune d'un peu moins de 10 000 habitants l'attend avec impatience, Bruno Duvic.
Le palais pontifical domine un lac et la petite ville, sa rue principale fleurie, pleine de restaurants, dont celui de Maria Paola. Prête ?
Non. Je n'ai pas connu les papes précédents et je ne sais pas à quoi m'attendre.
François n'est quasiment jamais venu.
Au début, ça manquait. Et puis, en créant le musée et le jardin, il nous a bien aidés à vivre.
Car François a créé un espace dédié à l'écologie dans les jardins et transformé le palais en musée. Du coup, son successeur devra loger dans un autre palais. À l'église, le père Rosmus voit les pèlerins arriver. Il est aussi biker et avec un groupe de motards, il a offert ce cadeau au pape lors d'une audience.
Un magnifique blouson blanc avec une image de Jésus sur les épaules.
Et Léon ?
Il
est très simple, normal, souriant. Il ne met pas de distance. Il s'intéresse à vous.
Léon pourrait profiter de la piscine et du court de tennis dans les jardins. Mais dans les magasins de souvenirs, rien n'a son effigie. Patricia tient celui à côté du palais.
Les fournisseurs attendent toujours les autorisations pour reproduire l'image de Léon. Le pape arrive, mais pas les gadgets.
Léon XIV repartira le 20 juillet, puis reviendra pour le week-end du 15 août.
Bruno Duvic en Italie. On l'appelle la Disney fatigue. Le terme désigne la saturation face aux séries et aux films produits par le studio aux grandes oreilles. Si au cinéma, la fréquentation devient aléatoire avec de gros succès qui côtoient des flops, sur la plateforme Disney+, en revanche, la situation est plus catastrophique encore. Les annulations de sorties s'enchaînent et les audiences sont en berne, Margot Barallon.
Une héroïne jeune, noire et inventive qui espère prendre la relève de Tony Stark, alias Iron Man, en fabriquant une armure de super-héroïne. Riri Williams, surnommée Ironheart, est la nouvelle star de l'univers Marvel, mais réussira-t-elle à sauver Disney Plus de la déroute ? De 2019 à 2021, toutes les séries phares de la plateforme ont cartonné. The Mandalorian, tiré de l'univers Star Wars, ou WandaVision, la première série avec des super-héros Marvel, avait offert une bouffée d'air frais aux deux franchises. Mais depuis, c'est la dégringolade. Les spectateurs aux États-Unis, seul pays qui mesure précisément les audiences en ligne, sont deux, voire trois fois moins nombreux à chaque nouvelle sortie. Dans sa newsletter Netflix en chiffres, Frédéric Durand analyse ces données et voit plusieurs manières de les expliquer.
Il y a effectivement sans doute la qualité des séries. Il peut y avoir aussi le rejet de Disney aux États-Unis avec tout le mouvement anti-woke qui a joué contre Disney. Il y a aussi eu sans doute trop de séries, notamment des séries Marvel. Quand on en a 4 ou 5 dans l'année qu'il faut regarder avant pour bien comprendre tous les tenants et les aboutissants des films, ça ressemble pas vraiment non plus du divertissement, c'est plus des devoirs à faire.
Preuve que le sujet travaille les studios Disney, beaucoup de séries sont annulées après une saison et aucune nouvelle fiction Marvel n'est actuellement en production pour la plateforme, impensable il y a encore 5 ans.
Margot Barallon, la météo demain avec un temps très nuageux attendu demain matin sur la majorité des régions accompagnées d'averses localement orageuses sur la moitié nord. Le soleil dominera en revanche sur le Languedoc, la région PACA et la Corse. Les éclaircies reviendront sur la façade ouest dans l'après-midi. Les minimales afficheront 13 à 17 degrés du nord au sud-ouest demain matin entre 17 et 22 degrés sur le pourtour méditerranéen. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Beneteau.